Bonjour à tous. Merci d'être là donc, pour cette présentation de l'œuvre de Laurence Sunaire, la trilogie Quantica, qui vient de trouver son achèvement dans le troisième tome Origine, donc des vestiges aux origines en passant par l'ouvreur de chemin, des chemins. Pardon. Nous avons là une épopée de science-fiction sur lesquelles nous allons avoir l'occasion de revenir en profondeur et en détail. Donc, Laurence Sunaire, c'est avant tout une personne au parcours singulier et éclectique. Hein. Nous aurons peut-être l'occasion de toucher, de parler des différents domaines que tu as pu aborder et qui ont contribué à la formation de ton univers si particulier, celui de Quantica, des études d'égyptologie, d'archéologie préhistorique, ce qui effectivement trouve des résonances là aussi avec la manière dont le récit s'engage sur la littérature anglo-saxonne. Donc de la même manière, nous parlerons sans doute de tes influences, de la manière dont tu conçois la tradition de la science-fiction, enfin les évolutions de la science-fiction qui ont abouti en ce qui te concerne à cette trilogie, mais également la bande dessinée, l'infographie 3D, et de ce point de vue-là, les couvertures, les magnifiques couvertures de Manchu, que j'espère pouvoir vous projeter ensuite, mais nous verrons, qui illustrent cette trilogie, rendent parfaitement justice, je trouve, à l'imaginaire visuel qui est le tien, qui est à l'œuvre dans ces romans. Et donc, en parallèle de ces études, de ces réflexions, une passion pour l'écriture qui est très ancienne, mais qui ne s'est concrétisée finalement de façon massive qu'avec ces romans. Le premier roman Vestige, paru en 2012, qui a reçu le prix Bob Moran, le prix Futurial, et qui ensuite a été suivi donc par l'ouvreur des chemins en 2013, et le troisième volume vient de paraître en 2015. 2015, hein, c'est bien ça, c'est très récent. C'est donc une trilogie à la gestation très longue, finalement est paru dans un temps assez ramassé, ce qui en un sens me semble bien correspondre à l'élan de l'écriture lui-même, c'est-à-dire le fait que on peut tout à fait lire ces trois volumes dans un même élan. C'est-à-dire que véritablement, on a presque en un sens dans cette trilogie un triptyque d'une même œuvre, clairement. Donc c'est vraiment là, il y a un tout organique qui se fait dans cette littérature. Et donc quelques mots avant de venir à toi, parce que c'est pour toi que nous sommes là. Quelques mots sur Quantica et l'univers de Quantica. Donc à la fois, je le disais tout à l'heure, une épopée spatiale. On revient vers une forme de space opéra, ou plus exactement de planète opéra, puisque c'est deux planètes en particulier, une est très centrale au début, qui est la planète Gemma, qui est une planète de glace sur laquelle tu reviendras, donc une cryosphère particulière, je mettrai ensuite les images, mais une deuxième planète prend une importance cruciale dans le troisième volume, une planète dont on espère finalement longtemps la venue, parce qu'elle est en une sorte esquissée dès le premier volume, la planète Timka, qui est une planète en un sens beaucoup plus riche et fascinante, puisque c'est presque, je n'en révélerai pas trop évidemment, mais c'est une planète pleine de vie, et c'est cette vie-là dont nous avions les vestiges en un sens dès le premier volume. Et donc on a en même temps que ce cadre très important, ce cadre grandiose propre au space opéra ou à la planète opéra, nous avons aussi il y a une intrigue beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle, parce que nous avons finalement une série de quêtes personnelles, et en plus particulièrement celle d'un personnage qui est central et qui est un personnage dont les évolutions rythment la trilogie, le personnage d'Ambre Pasquier, dont le nom n'est finalement dont le nom recèle lui-même une part de mystère. Enfin, il y a un lien très profond entre ce personnage et ses origines à elle et la question des origines, qui est la question des origines des civilisations extraterrestres. Donc il y a un dialogue entre une dimension humaine et une dimension qui est une dimension de spéculation, de réflexion sur les extraterrestres. Et c'est, disons, ça fait partie des thématiques que nous pourrons explorer aujourd'hui. Alors, avant de me jeter sur l'ordinateur pour régler mon petit problème technique, je te souhaite bien sûr la bienvenue. Mais bon, tu es une habituée de ce festival. Je te propose de revenir d'abord sur ta propre formation, sur tes propres origines en quelque sorte, et notamment sur ce qui dans ton parcours te semble le plus susceptible d'être entré en résonance avec ton écriture, avec ton œuvre.
Oui, alors pour ceux qui me connaissent un peu, je suis à la formation d'égyptologue, archéologue et ethnologue. Donc effectivement, c'est des sujets qui ont toujours l'autre, en fait, la civilisation éteinte ou la civilisation disparue ou les autres cultures. En fait, c'est des sujets qui m'ont toujours passionnée. Et je pense que ça a commencé bien avant mes études, parce que déjà, quand j'étais enfant, mon père était un grand voyageur pour son travail et ramenait toujours des objets très mystérieux du style tête empaillée, d'Amazonie, caïmans, enfin pas tête empaillée, tête réduite. Des caïmans empaillés, des pots de boa constricteur, des amulettes, toutes sortes de choses comme ça, des instruments de musique bizarres. Et donc, en fait, cet intérêt pour l'altérité, la différence, a commencé dès mes 5 ans, 6 ans. Et avec mon père, on écrivait des histoires, justement, qui racontaient des expéditions scientifiques dans des pays lointains ou qui n'existaient pas, etc. Donc, c'est quelque chose qui remonte même avant mes études. Et effectivement, mes études, j'ai essayé de retrouver ça. Mais en fait, je me suis rendu compte par la suite que ce qui m'intéressait dans les études, c'était pas tellement les études, mais c'était en fait alimenter l'imaginaire. Donc en fait, toutes mes études n'ont servi qu'à ça. C'est-à-dire, j'ai toujours su que je voulais raconter des histoires, que ça soit sous forme de bande dessinée, puis je suis aussi dessinatrice, ou sous forme de romans ou de nouvelles. Et mes études, souvent je me posais la question, mais pourquoi j'étudie, pourquoi j'étudie ça? Mais uniquement pour alimenter en fait mon imaginaire. Je me voyais dès mes 10 ans, je me voyais écrire des bouquins, raconter des histoires, etc. Donc c'est quelque chose qui est dans l'œuf, quoi. Voilà.
Et il me semble que cette sensibilité aux histoires, de toute façon, fait partie de la trame elle-même de la trilogie, et que, en un sens, la réflexion sur la réalité qui peut s'y mener, s'y mène aussi à travers le prisme de l'écriture et plus exactement de l'oralité, puisque l'écrit n'est finalement que secondaire. C'est un élément.
Oui, c'est vrai.
Si tu veux.
Oui, parce qu'en fait, ceux qui ont lu Quantica, maintenant je ne sais pas qui l'a lu, c'est qu'en fait c'est une culture à l'origine qui est de tradition effectivement orale, qui n'a pas besoin de l'écrit. Et il arrive un traumatisme dans cette civilisation, donc les Timkans, donc qui sont les originaires de Timka, qui ont laissé justement ces vestiges sur Gemma, donc l'artefact en orbite, et ainsi que les ruines en fait piégées dans la cryosphère. Et c'est une culture, on le découvre au fur et à mesure de l'histoire, qui n'avait pas développé de langage écrit. Et qui a développé un langage écrit, c'est le langage de la mémoire, le langage parane, à cause d'un cataclysme, d'une catastrophe qui leur est arrivée, et qui les a coupés de leur origine et de leur mémoire. Et cette histoire, justement, de ce cataclysme, se retrouve aussi dans l'histoire du personnage principal qui est Ambre, qui a, à la suite d'un traumatisme dans son enfance, perdu, en fait, oublié son passé et perdu, en fait, ses origines. Donc, c'est une double quête, c'est-à-dire c'est une quête du personnage principal pour retrouver sa mémoire, retrouver qui elle est fondamentalement, et aussi pour ses personnages, donc les Timkans, qui sont à l'origine du livre, qui doivent se retrouver qui ils étaient avant le traumatisme, déjà comprendre de quelle nature est ce traumatisme, et comment, en fait, y remédier, est-ce qu'on peut y remédier. Voilà. Et le lien qui unit cette civilisation à ce personnage humain, je ne vais pas trop non plus complètement spoiler l'histoire, mais il y a un lien très fort en fait entre les deux vécus, l'évolution de ce personnage d'Ambre, qui retrouve son nom, ses origines, au fur et à mesure de l'histoire, et des Timkans qui vont retrouver, qui vont renouer à la fin du livre en fait aussi avec leurs origines et leur passé millénaire. Voilà.
Oui, c'est vraiment l'union du macrocosme et d'une perspective qui est d'ampleur, enfin, vraiment astronomique, et d'une évolution personnelle.
Il y a aussi la culture orale de la musique, en fait, parce que c'est un livre qui parle de musique, de son, et à travers l'oralité, c'est-à-dire un apprentissage de la culture musicale à travers l'oralité, du fait du personnage principal qui est indien, qui a une expérience d'enfant prodige, virtuose, qui a appris la musique classique indienne, qui est une tradition orale. Et voilà, donc il y a aussi un lien avec ce genre de transmission.
Mais alors justement, enchaînons sur cette idée qui aurait pu venir plus tard, mais justement, il y a dans l'écriture même de la trilogie, dans l'écriture même de Cantica, il y a une attention très forte à des effets de musicalité, des effets donc à la fois dans le choix des noms, qui peuvent être très sonores et qui effectivement évoquent une forme d'exotisme qu'on n'arrive pas à placer très nettement. Donc, effectivement, on a déjà entendu le nom de Tim K. Il y a des noms de.
Des tas de noms bizarres.
Voilà, des noms de créatures mythologiques et en même temps trop proches de nous, comme Yung Keda, qui intervient. Je ne vais pas tous les citer, d'autant que certains sont révélés au fur et à mesure. Mais justement, il y a des effets de rythme, des effets de musique qui sont clairement recherchés et dont certains parviennent à quasiment à provoquer l'état d'hypnose et de transe chez le lecteur, du moins le lecteur que j'ai été, qui pour le coup reproduisent les effets d'obsession et de des personnages eux-mêmes.
Mais pas mal de ces noms viennent justement de cette tradition orale indienne, du son des tablas en fait. Et pour ceux qui connaissent un peu la musique, la culture indienne, la musique indienne, auront peut-être compris certaines choses, mais c'est vrai que beaucoup des noms viennent du langage des tablas. En fait, les tablas, c'est les percussions d'Inde du Nord, de la musique hindoustanie. Et vu que je suis musicienne aussi et que j'ai appris cette culture orale depuis pas mal d'années, donc ça se retrouve effectivement dans le bouquin. Et certaines personnes qui connaissent et l'hindouisme et cette tradition auront fait des liens. Mais c'est pas important en même temps. C'est ma source d'inspiration.
Oui, et pour le coup, la musique effectivement joue un rôle important, notamment
le rythme,
exactement. Tout à fait. C'est effectivement un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à cette écriture, cette formation qui vient faire de cette trilogie une convergence pour toi de très nombreux aspects. Plus précisément, est-ce que tu peux nous dire comment en fait le projet est arrivé à maturité et comment l'as-tu mené? Finalement, c'est un projet de longue haleine, c'est des romans très longs. Je sais que tu en as écrit des versions différentes et qu'il y a vraiment eu un effet de réécriture, de remise en cause de ta propre écriture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de ce projet, du projet Cantica, qui maintenant est complet?
Alors, le projet Cantica, je pense qu'il découle d'un autre projet que j'avais en bande dessinée qui s'appelait Les Chronosphères, où la plupart des personnages de Cantica sont venus en fait de ce projet de BD qui a été inachevé. Et notamment le personnage de Ambre, le personnage d'Aziel, c'est des personnages qu'on retrouve à l'origine dans Les Chronosphères, qui était plus une bande dessinée un peu steampunk qui mélangeait les époques. Ensuite, j'étais auteur de bande dessinée. En même temps que je travaillais dans le dessin, j'ai fait aussi du storyboard pour le cinéma, d'illustration. J'avais toujours en fait une idée dans ma tête, j'avais une planète gelée, j'avais Ambre Pasquier, Aziel Delaurier, les Tim Kahn, un artefact en orbite et de la musique. Ça, c'est le point d'origine et une planète océan, voilà. Et ça tournait dans ma tête, et je lisais énormément de choses sur la physique. J'ai fait 2 ans de physique, etc., à l'université aussi. Et en même temps, je lisais beaucoup de bouquins sur la culture, l'hindouisme, etc., puisque j'apprenais la musique indienne. Et je sais pas, le mélange de toutes ces choses a mûri graduellement pendant que je dessinais. J'écrivais des petites nouvelles, en fait. Moi, je commence toujours, en fait, quand j'ai envie d'écrire un univers, par des nouvelles, parce que ça me permet d'apprivoiser les personnages, le contexte, d'explorer un peu, même si ça ne correspond pas au produit final. Il y a une nouvelle qui s'appelle Tim K, qui est parue en 2009, qui parle de Cantica sans en parler vraiment, parce qu'en fait, on ne retrouve pas vraiment dans le roman ce qu'il y a, à part la planète océan. Donc voilà, donc j'aime bien explorer par petites touches. J'ai des flashs, des visions en fait, de scènes qui se composent, etc. Et puis au gré de ces scènes qui se forment, l'idée se complexifie, s'affine. Et du coup, j'arrive avec un projet qui est assez vaste, parce que justement, j'ai exploré énormément de sentiers, de tous les chemins possibles, en fait. Et au final, après, il faut choisir, c'est-à-dire il faut se lancer dans le projet. Mais il y a déjà un vaste univers derrière, bien avant que je me mette vraiment à écrire une histoire qui mette en scène les personnages, les intrigues, etc.
En un sens, ces besoins de choisir se retrouvent pour les personnages eux-mêmes qui sont un peu à la croisée des chemins régulièrement.
Donc, ça parle aussi des probables, des univers multiples, des probabilités, puis ça parle de physique quantique. Il y a une notion aussi de divergence en fait, qu'on retrouve à la fin du tome 3. Donc voilà, ça, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Donc,
Oui, il y a, en un sens, on sent, me semble-t-il, dans la trilogie, effectivement, la force des possibles et le fait que nous n'avons qu'une incarnation possible de cette histoire.
Ça, je ne sais pas, voilà. Si on a une incarnation possible.
Alors, justement, venons-en un petit peu plus nettement à la littérature, à la science-fiction. J'aimerais peut-être qu'on aborde, puisque finalement tu as évoqué par différents thèmes cette représentation de planète-océan, l'artefact en orbite, tout ça, ce sont des choses qui sont en partie des choses héritées. Je pense à Rendez-vous avec Ramah. Là, on voit donc ce qui pourrait être un big dump object, vous savez, ces objets gigantesques qu'on associe avec le space opéra. Je pense à un Rendez-vous avec Ramah, par exemple. Mais comme justement dans Rendez-vous avec Ramah, cet objet qui est l'arche en orbite autour de la planète Gemma, cet objet-là se révèle, sans préciser comment, mais se révèle être quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus, beaucoup plus intelligent pour le coup. Que justement simplement un vestige archéologique incompréhensible. On a véritablement un souci d'humaniser les objets de la science-fiction. Et donc j'aimerais simplement que tu nous dises un petit peu quelles sont tes influences, quelles sont dans les auteurs qui t'ont précédé, ceux dont tu estimes qu'ils ont véritablement, enfin qu'ils ont été, que tu as voulu les réinterpréter, voilà.
Alors en fait, en tant que jeune lectrice, quand j'étais toute petite, je lisais tous les Bob Moran. Et ma première expérience d'écriture, ça a été en réécrire un, parce que je n'aimais pas la fin. Puis ensuite, vers les 10 ans, j'ai découvert, par un ami de mon père, informaticien, un livre absolument magistral, qui n'était pas du tout pour une aussi jeune fille, donc j'avais 9 ou 10 ans. C'est La plaie de Nathalie Enberg. Et ça m'a complètement fascinée. En fait, ça m'a fait un déclic. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, voilà ce que je veux faire dans la vie, je veux écrire des histoires, des histoires qui mettent en scène l'ailleurs, l'imaginaire, etc. Ça a commencé comme ça. Ensuite, dans la bibliothèque de mon père, il y avait beaucoup de bouquins de science-fiction anglo-saxons. Donc j'ai commencé très jeune à lire toute la science-fiction anglo-saxonne. Clifford C. Mack, Arthur C. Clarke, Silverberg, les Anglais, les Américains. Asimov, voilà, enfin à peu près tous, parce qu'il y en avait beaucoup dans la bibliothèque de mon père. Ensuite, j'ai commencé à en acheter de mon côté. J'ai découvert la science-fiction francophone sur le tard, parce que vraiment j'ai été baignée par la science-fiction anglo-saxonne. Et disons, à partir de mes 11 ans, j'avais décidé que j'écrirais de la science-fiction. Donc c'est vraiment quelque chose qui remonte à loin. Voilà. Ou dessinerait de la science-fiction, les deux, hein, parce que les deux, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire dessiner ou écrire, j'aime bien passer de l'un à l'autre, pour moi, c'est la même chose, en fait. Simplement, c'est un autre moyen d'y parvenir, mais c'est vraiment, que je dessine ou que j'écrive, pour moi, c'est raconter une histoire. Donc, ou que je la mette en musique aussi, c'est égal, c'est un tout, quoi.
Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la plaie, parce qu'il me semble que dans la représentation, enfin la manière dont le mythe et la science-fiction sont associés, on a effectivement un exemple frappant dans la plaie qui rappelle certaines des plus belles pages d'origine, justement. Mais alors, j'aimerais qu'on explore un peu plus avant cela la piste, je dirais, un peu plus hard science. Et il me semble qu'il y a une parenté, un cousinage possible avec, par exemple, Alastair Reynolds, qui tout à fait, enfin, qui Donc j'aimerais bien que tu nous parles éventuellement un petit peu de ceci. Je te laisse. Et plus spécifiquement justement de l'importance de justement de l'art science pour toi dans ton processus d'écriture.
Moi j'étais toujours fascinée par Arthur C. Clarke. Et en fait, je me suis mis très tard à écrire de la science-fiction parce que j'en avais peur. Justement, j'avais envie d'écrire quelque chose quand même de scientifique et je me sentais totalement incapable d'écrire quelque chose de scientifique. Alors pendant longtemps, j'ai écrit, au lieu d'écrire de la science-fiction, j'ai écrit du fantastique. J'ai des tonnes de nouvelles de fantastique dans mes tiroirs qui sont absolument jamais parues. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le fantastique, mais ce que je voulais, c'était écrire de la science-fiction. Mais n'ayant pas de passé d'astrophysicienne ou de physicienne, je me suis dit, non, c'est juste pas possible, en fait, je peux pas, je serai jamais crédible, j'y arriverai jamais, ça va jamais sonner comme de la science-fiction, etc. Et donc c'est vrai que j'aimais beaucoup la science-fiction scientifique dans mes jeunes années, que ce soit les Asimov, mais surtout les Arthur Clarke, en fait, m'ont vraiment complètement fascinée, voilà. Dans une autre vie, je ferais l'astrophysique ou la physique.
Et donc justement, un de tes soucis dans la composition des romans, de ces romans-là, ça a été justement de vérifier, c'est-à-dire de dialoguer avec les...
Parce qu'en fait, Quantica parle de science, en fait, il parle du rapport de l'homme face à la réalité. Alors, comment on interprète la réalité ? D'un point de vue scientifique ou est-ce qu'on l'interprète différemment, comme les Tim Kahn, qui n'ont pas de langage scientifique ? Donc forcément, Quantica parle de science, c'est évident. Et j'ai voulu, comme je mets en scène des scientifiques, je me suis dit, bon, bah, il faut que je rencontre des scientifiques, il faut voir comment ils discutent entre eux, il faut que ça soit un peu crédible. Et puis bon, c'est aussi par intérêt, j'avais envie de créer une exoplanète qui soit réaliste. Donc du coup, j'ai bossé avec les astrophysiciens de l'Observatoire de l'Université de Genève qui m'ont construit les modèles planétaires, en fait, que ça soit d'Altamira, du système binaire Altamira, avec les planètes, il y a des planètes gazeuses, et puis il y a une planète tellurique glacée, Gemma, qui est une planète qui est sur une orbite elliptique, qui est en partie dans la zone habitable et grande partie hors de la zone habitable. Et du coup, j'ai eu envie d'avoir ces systèmes planétaires créés, c'est-à-dire d'avoir vraiment une cohérence. Et de même pour Timka, c'est-à-dire que voilà, j'avais imaginé une planète océan, alors comment ça se passe au niveau des marées, il y a trois lunes, mon Dieu, ça va être compliqué, il y a des grands tsunamis, etc., mais qui va très bien avec les Timka qui, pour finir, sont une population amphibie. Donc du coup, j'aime beaucoup travailler avec les scientifiques, parce que d'abord, c'est super intéressant, ça me permet d'apprendre des tas de choses, et puis en plus, ça colle à mon univers, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en scène dans ce roman-là, spécifiquement. Donc voilà, c'est aussi un besoin, une envie aussi.
C'est vrai qu'il y a, de ce point de vue-là, quasiment une... Enfin, il y a des éléments de sociologie de la vie scientifique, c'est-à-dire que dans Vestige, clairement, les protocoles scientifiques, les débats qu'il peut y avoir et les questions aussi du financement de la recherche interviennent. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique dans ce futur lointain qui n'est pas sans rappeler celle que nous connaissons maintenant. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet effet de projection du réel sur l'imaginaire. Alors, donc, justement, l'imaginaire et la question du mythe. Dans le parcours qui se fait dans la trilogie, dans ce dans quoi on s'engage lorsqu'on lit cette trilogie, c'est aussi justement passer progressivement d'une certaine conception de la science, qui est la conception humaine, à progressivement, par paliers que représentent les livres qui ouvrent peu à peu justement des chemins vers d'autres voies possibles, eh bien, on passe progressivement à un autre rapport au savoir. Et ce rapport au savoir, tu l'as construit dans un rapport à une mythologie qui, au départ, est figée, et une mythologie retrouvée dans de mystérieux pétroglyphes qui se trouvent enfouis sous la surface de Gemma. Donc la dynamique de recherche initiale de Vestige, et progressivement cette mythologie devient vivante, actuelle, essentielle pour la survie de l'espèce humaine notamment. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ce rapport, alors ton rapport personnel éventuellement à la question du mythe, à la question de à la fois de l'imaginaire, mais aussi de l'intelligence mythique, et ensuite évidemment, enfin, à ton gré, l'importance que ça peut faire, peut tenir dans ton univers, dans ta conception de Quantica.
J'ai lu pas mal de mythes, en fait. Je me suis toujours posé la question, justement, de la science par rapport aux mythes. Qu'est-ce que la science apporte ? Et qu'est-ce que le mythe apporte? Alors, la science apporte des questions, en fait. C'est-à-dire que sans arrêt, on découvre quelque chose qui remet en question ce qu'on a appris et on repousse toujours plus loin le questionnement. En fait, c'est une perpétuelle. C'est incarné par le personnage de Stanislas Stanford, qui est physicien dans Quantica, qui lui est très humaniste en tant que scientifique, c'est-à-dire qu'il est très ouvert. Il se dit, pour lui, c'est un éternel recommencement. Un questionnement sans fin. C'est comme si les limites de la compréhension humaine étaient toujours repoussées. C'est comme si l'esprit humain était inapte en fait à comprendre l'univers parce qu'on n'est pas fait pour. C'est-à-dire il nous manque quelque chose. On n'a pas cette perception là. Et les mythes, qu'est-ce qu'ils apportent les mythes? Ils appellent des réponses. C'est-à-dire que c'est comme une théorie du tout. Tout fonctionne dans un mythe. Tout est expliqué. Voilà. C'est quelque chose de très rassurant un mythe en fait par rapport à une interrogation scientifique qui est sans arrêt repoussée. Et je me suis demandé, mais maintenant, est-ce que dans les bouquins de science-fiction, dans les films de science-fiction, on voit toujours l'extraterrestre comme une entité qui a un savoir absolument parfait, qui passe par le langage mathématique, parce que le langage mathématique est le langage de l'univers. Alors, est-ce que vraiment le langage mathématique est celui de l'univers? On peut se poser la question. Est-ce que c'est pas un langage humain, simplement, que l'humain a développé pour comprendre sa version, enfin, ce qu'il peut comprendre de l'univers? Et les Timkans n'ont pas de langage mathématique. Et ils ont une façon de percevoir la réalité complètement différente. Et ils l'expriment à travers un langage poétique. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucun langage scientifique. Ce qui est, au niveau de la communication entre deux espèces, très compliqué. Parce que mes humains veulent comprendre. C'est-à-dire veulent savoir comment ça fonctionne. Et les seules réponses qu'ils vont obtenir, c'est à travers des langages très imagés, très poétiques. Et très basés sur une sorte d'encryptage musical. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé d'imaginer une civilisation qui aurait une façon d'appréhender la réalité qui est différente en fait, qui donne une civilisation technologique. Donc ça me permet d'avoir des humains qui sont un petit peu déboussolés en fait et qui doivent s'adapter. Ce que fait le personnage d'Ambre justement dans mon bouquin, c'est étant très scientifique et presque borné en fait au niveau de la science, ayant rejeté en fait son passé très spirituel. Liée justement à sa culture indienne, elle va devoir puiser dans ses origines justement pour trouver un langage qui n'est pas un langage scientifique et qui, en l'occurrence, c'est un langage qui vient du mythe et de la musique en fait. Qu'est-ce que la musique justement peut véhiculer comme information, on va dire, voilà.
Oui, avec finalement un rapport très intuitif à la science et à la réalité.
À la réalité, oui.
Voilà, c'est-à-dire l'idée que la science peut être fondée non pas sur, même si c'était un peu réducteur de dire ça comme ça, bien sûr, hein, il y a un rapport intuitif à la science pour les scientifiques, mais justement exprimer ce rapport intuitif par un esprit d'association et un esprit de symbole, d'iconification du réel, qui n'est plus une réduction, mais au contraire une manière d'accéder à une essence de la réalité. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment, c'est aussi une forme de... de xénoscience et de xénosociologie, c'est-à-dire que on a dans Origine,
xénologue d'ailleurs,
voilà, de la xénologie, voilà, c'est-à-dire que finalement il s'agit d'avoir accès à une autre espèce dont les fonctionnements, là, c'est ça qui est assez frappant, parce que ce n'est pas si fréquent en science-fiction d'avoir quelque chose qui est à ce point organisé, en mettant en parallèle deux modes de fonctionnement. Il y a toujours le spectre de la question de la supériorité de l'un sur l'autre, la question du progrès avec une échelle souvent quasiment unique du progrès, et l'idée que ceux qui ont des voies différentes sont écrasés par ces voies différentes. Et là, ici, il y a véritablement la représentation d'une voie qui n'est pas la voie humaine, mais qui n'est ni appelée à devenir écrasante ou supérieure et dangereuse, ni appelée à être écrasée, à être dominée. Donc on est en dehors de rapport de domination, finalement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'indifférence, en fait. Surtout du point de vue des Timkans, on va dire. Pour en revenir justement à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au langage... Et par rapport à une façon différente d'appréhender la réalité, c'est-à-dire que dans le tome 1, Vestiges, mes explorateurs scientifiques découvrent un langage effectivement sur les murs des Vestiges. Et tout de suite, ils se disent, voilà, c'est super, on a une intelligence extraterrestre, bien sûr, et il y a un langage écrit. C'est-à-dire qu'il y a une articulation des idées à travers l'écrit. Et en fait, pour les Timkans, l'écriture, c'est une régression. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu besoin de passer par l'écrit. Et dû à un événement tragique qui est lié à cette entité Yunkeda, on a dû réinventer le langage et la transmission de la mémoire à travers l'écrit. Donc en fait, déjà, il y a une différence notable entre l'évolution de l'humanité et l'évolution de cette espèce extraterrestre qui, pour eux, le langage écrit est une régression. C'est-à-dire qu'il va falloir ce qu'ils avaient à l'origine, en fait, leur façon de communiquer, de pouvoir partager l'information, s'est éteinte. Donc du coup, il a fallu réinventer une façon de transmettre la mémoire et les données et tout ce qu'on veut, quoi.
Et alors, on parle de Yunkeda, on parle de différentes entités. C'est-à-dire que tu jongles avec facilité entre un niveau qui est un niveau cosmologique, mythologique, et un niveau qui est un niveau personnel. Et c'est souvent dans les interactions entre les deux que se créent les problèmes. Mais une chose qui me semble assez frappante dans cette trilogie, notamment, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme. C'est-à-dire que quand on entre dans la perspective, une perspective qui est mythologique, et je repense ici à la plaie de Nathalie Enberg, Nathalie Enberg joue à plein la carte du manichéisme. Ça fonctionne extrêmement bien chez elle, au sens où on a véritablement l'idée d'un mal moral qui est palpable et matériel. Toi, ta perspective est tout de même extrêmement différente, c'est-à-dire que il n'y a pas de mal absolu dans ce que tu représentes, et il y a tout un space opéra qui joue de cette idée justement du mal, mais ici il y a véritablement, disons là encore, des chemins possibles, des affirmations possibles dont certaines semblent plus souhaitables aux personnages, mais chacun, et y compris les entités qui peuvent sembler les entités les plus négatives, s'avèrent être tout à fait dotées de motivations tout à fait acceptable, même si on ne souhaiterait pas les voir arriver à leur fin, mais il y a véritablement une subtilité dans la caractérisation des personnages, aussi bien les bons que les méchants, en quelque sorte.
Oui, en fait, il n'y a pas de volonté de nuire, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à une sorte d'entité cosmologique qui a ses propres buts. Donc du coup, forcément, ces buts-là, ils ne sont pas forcément conciliables avec les buts et des Timkans et des humains. Et il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que tout vient de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que tout est déjà intégré dans tous les personnages du livre, et que ce soit des Timkans ou de l'entité justement piégée dans Gemma, tout vient de l'intérieur, il n'y a pas une force de l'extérieur en fait qui est venue, enfin, écraser.
Il
n'y
a pas de transcendance finalement, non, c'est-à-dire non. Qu'on peut avoir
tout
donné cette impression-là.
Tout est généré par le matériel qui est présenté dans le livre en fait, et ce qu'on découvre à la fin de la trilogie en fait.
Mais finalement, on va pas évidemment révéler certains des grands secrets de la trilogie, parce que c'est aussi un texte qui est orienté vers la découverte et vers des espaces de révélation, si je peux permettre ce clin d'œil. Mais effectivement, la dynamique de caractérisation et la dynamique de réalisation, c'est vraiment pas, ça n'est pas quelque chose de manichéen, et on peut suivre l'intention des différents personnages, y compris les plus négatifs, et presque sympathiser avec eux. Certains personnages particulièrement négatifs sont quand même des individus animés. Bon, je pense à Trank-Tak, le malheureux Trank-Tak,
oui,
qui est donc la figure un petit peu du, je dirais pas du mauvais savant, mais en tout cas du savant dont l'orgueil est fatal dans ce qu'il fait. Ce personnage-là, tout en incarnant, tout en symbolisant des aspects négatifs, représente aussi une certaine aspiration au savoir qui est qui reste très positive. Alors, j'aimerais bien peut-être qu'on parle un petit peu des personnages. Alors, peut-être d'Ambre Pasquier, justement, qui est un personnage essentiel, mais peut-être un petit peu, parce que tu as mentionné déjà ces personnages-là t'accompagnent pour certains depuis très longtemps. Et justement, peut-être pourrais-tu nous parler un petit peu de ces personnages qui rendent ton univers vivant aussi.
C'est des personnages, effectivement, pas tous, mais il y en a certains qui peuplent les univers depuis longtemps, mais qui sont venus du dessin. Donc, c'est des personnages que j'ai beaucoup dessinés. Et moi, je ne peux pas m'empêcher. C'est-à-dire que quand j'écris, je dois dessiner mes personnages et vice-versa. Donc c'est des personnages qui ont un peu de corps pour moi parce qu'ils m'habitent depuis passablement d'années, qui ont traversé d'autres récits, qui ont servi à d'autres choses et qui, pour finir, ont trouvé vraiment leur finalité dans Quantica. Et notamment les personnages des Team Camp, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis assez longtemps. Je voulais une civilisation qui soit entre l'animal et le cerveau, en fait. Quelque chose de complètement paradoxal, avec une ambiguïté sous-jacente extrême, on va dire. Donc je cherchais depuis un moment comment pouvoir concrétiser, en fait, ce double aspect. J'aime bien les ambivalences, en fait. Et la même chose avec le personnage d'Ambre, qui a été d'abord enfant... musicienne prodige, qui a vécu un traumatisme, a tout perdu et est devenue une sorte de scientifique à l'extrême. Et comment j'ai voulu trouver intéressant de la voir revenir au milieu, en fait, au chemin du milieu, quoi. Et par certains sacrifices quand même extrêmes, hein, on va dire. Voilà.
Oui, c'est aussi une quête de l'équilibre intérieur.
Je pense que la quête d'Ambre, elle est très proche de la quête des Team Camp, donc c'est quelque chose qui m'a intéressé de faire que les deux chemins se réunissent dans le livre. En fait, la quête personnelle et la quête de, on va dire, spécifique, ouais, de l'espèce.
Oui. Alors, je pense qu'on va pouvoir ouvrir bientôt le questionnement au public. C'est un agora aussi. En ce sens, est-ce que avant cela, est-ce que tu as des projets, des perspectives dont tu souhaiterais parler maintenant ou...
Oui, alors bon, il y a pas mal de projets. Et en ce moment, je travaille sur des nouvelles d'un univers très différent de Suite Quantica, qui se passe à une autre époque, mais qui parle aussi de physique et de divergence. Et puis, il y a aussi à la base de Quantica, il y a une bande dessinée. Et qui n'a pas été faite, parce qu'au moment où j'ai... Donc il y a tout un storyboard, tout est prêt en fait pour cet album de bande dessinée. Et au moment où j'ai commencé à le réaliser, bon, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus d'espace, donc j'ai passé au format du roman, puisque j'aimais bien écrire aussi. Je dessinais, j'écrivais... j'avais jamais écrit quelque chose, j'avais jamais écrit de roman vraiment, mais je me suis dit, c'est l'occasion. Et ce scénario d'origine, enfin de la bande dessinée... c'est une histoire qui se passe après la trilogie, et pour moi c'est quelque chose, je pense, qui est très important, parce qu'on apprend dans ce scénario pourquoi les Team Camp sont venus sur Gemma. C'est un sujet qui n'a jamais... j'en parle justement pas dans la trilogie. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais en fait on sait pas pourquoi ils sont venus là. Non, parce qu'en fait c'est le sujet d'un autre roman, et c'est un roman qui est indépendant complètement de Quantica, donc il peut se lire complètement indépendamment, avec une autre intrigue, une intrigue très cosmologique et avec un suspense assez soutenu. Bon, il n'est pas du tout écrit encore, mais par contre, il est assez prêt. Et peut-être je vais le réaliser ou pas. Voilà.
Donc,
il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, justement, s'il y avait une suite de Quantica.
Oui,
effectivement, il y a une suite, mais bon, maintenant, est-ce que je vais la réaliser maintenant? Est-ce que j'écris un autre roman avant? Je sais. Pour l'instant, j'hésite. Mon cœur balance, en fait.
D'accord. Alors, je ne crois pas qu'on ait de personnes pour faire circuler un micro, mais... Il y a un micro. Alors, mais déjà, est-ce qu'il y a une question à ce stade? Sinon, on peut continuer à discuter. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole? Non? Bien. Écoutez, nous allons...
Sont timides.
Oui, et puis la plupart des réponses sont de toute façon dans les romans, que je vous invite bien sûr à lire si vous ne les avez pas déjà encore entamées. Revenons peut-être, si tu veux bien, sur la façon dont tu as conçu les noms des personnages, dont la façon dont finalement les personnages expriment par leur nom certaines choses. Alors je pense, on a déjà entendu ce Tranctac, finalement dont le nom déjà trahit en soi une certaine disons un certain problème, tout en ayant une musicalité, mais c'est une musicalité clairement agressive. Et d'autres personnages, au contraire, Aziel Delaurier ou Tokalinan, ont, clairement, là aussi, il y a une matérialité aussi de la personnalité de tes personnages qui intervient dans cette...
Alors, c'est super marrant parce que les noms des personnages me viennent d'un coup. C'est-à-dire que je fais pas tellement de recherches. Je le dessine, surtout je dessine les personnages, et ensuite le nom il vient avec le personnage, en fait. Quand il est dessiné, le nom il coule de source en général. Donc c'est pas une vraie recherche où je me dis voilà, je veux vraiment que ça exprime ça, etc. Mais le dessin pour moi suggère des sons, en fait. Et c'est un mélange, en fait, entre l'image et le son. Et du coup ça donne des noms assez spontanés, on va dire, plutôt. Mmh. Il y a certains noms, effectivement, qui viennent un peu de la tradition indienne. Voilà.
Oui, qui a agi en sous-main. Alors, revenons aussi, mais donc encore une fois, n'hésitez pas à lever la main pour intervenir. À ce stade, vous avez certainement des interrogations supplémentaires. Revenons un petit peu sur les planètes. On a deux planètes, la planète Gemma et la planète Timka, enfin, principalement, hein, deux, avec la Terre qui reste encore là, lointaine, mais qui est là. Et il me semble, bon, il y a une symbolique assez évidente rétrospectivement dans cette planète gelée, donc couverte de glace, et cette planète océan de l'autre côté, c'est-à-dire le gel, l'archéologie, les vestiges, et la vie, la fluidité, le mouvement de l'autre côté. Est-ce que tu pourrais revenir à la fois sur la physique de ces lieux, mais aussi sur leur symbolique pour toi?
Alors symbolique, je sais pas, mais en fait, en tout cas, à la base, il y avait deux planètes océans, bien entendu, puisque les Timkan ont besoin d'une planète océan. Donc à l'origine, là, je vais spoiler un peu, mais Gemma, bien sûr, était une planète océan. Et c'est en partie ce qui a attiré les Timkan vers elle, mais pas seulement, puisque ça, je vais pas en parler. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand j'imaginais, c'est le premier truc que j'ai imaginé par rapport à Quantica, il y avait cette planète gelée, parce qu'en fait, j'avais besoin d'un isolant. J'avais besoin de quelqu'un qui est quelque chose qui isole complètement en fait l'entité en fait du reste en fait de l'espace-temps, et la glace, c'est un très bon isolant. Et je me suis dit, bon voilà, cette planète, elle a été sortie de son orbite qui était à l'origine complètement dans la zone habitable, et par un processus, elle a été éjectée pour se retrouver sur une orbite elliptique, qui fait qu'elle reste un petit moment dans la zone habitable, et le reste du temps, elle sort par son orbite elliptique, en fait. Mais bien entendu, c'est une trajectoire qui a été modifiée d'un point de vue artificiel, quoi. Donc,
ingénierie planétaire en arrière-plan.
On a gelé la planète, voilà.
Et c'est effectivement, c'est assez fascinant, cette idée d'une planète entière qui devient une prison.
En fait, il y a beaucoup de planètes glacées, en fait. C'est comme Europe, etc. Ça peut arriver, je veux dire, c'est quelque chose de... Et d'ailleurs, la Terre, dans un passé très lointain, il y a une théorie qui dit que la Terre a été ce qu'on appelle une snowball Earth, qui est justement une planète entièrement gelée, qui est un processus qui commence par les pôles, c'est-à-dire une glaciation. Bien sûr, le processus de glaciation commence par les pôles. Et une fois que la planète commence à être vraiment... que les glaces descendent en fait en direction de l'équateur, en fait c'est un processus qui est très difficile à arrêter, parce qu'en fait, du fait de l'albédo, c'est-à-dire la réflexion, enfin, plus une planète est glacée, plus elle va réfléchir les rayons du soleil vers l'extérieur, et plus elle va se geler. Donc il faut vraiment beaucoup beaucoup de gaz carbonique, beaucoup de projections volcaniques pour réchauffer l'atmosphère. C'est très difficile à réchauffer, et si la Terre a été en glaciation globale, c'est une théorie maintenant, on ne sait pas, hein. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps, des millions d'années, pour se réchauffer, en fait. Et c'est ce qui est arrivé à Gemma, c'est-à-dire que la glaciation a commencé justement vers les pôles et descendue vers l'équateur. Et une fois qu'elle est à l'équateur, c'est très difficile, en fait, de faire machine arrière, en fait.
Et inversement.
Il y a même des humains qui ont voulu mettre des processeurs atmosphériques sur Gemma pour essayer d'inverser le processus. Mais bien sûr, c'est très hypothétique, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour que l'albédo diminue, quand il neige en Suisse, par exemple, plus il y a de blanc, plus il va neiger, plus il va faire froid. En fait, ça s'appelle un processus de rétroaction positive, et c'est difficile à revenir en arrière, en fait.
Oui, c'est une boucle qui se renforce.
Boucle de rétroaction positive.
Ce qui est frappant, c'est que justement, le réchauffement de Gemma, si j'ose dire, il se fait de manière absolument catastrophique, et pas du tout sur la manière. Nous avons.
Non, il fallait pas creuser la glace. Hein, c'est une très mauvaise idée. Hein,
là, on retrouve là aussi des symboliques qui traversent la littérature de l'imaginaire. L'idée que la curiosité peut être un vilain défaut, et que si on creuse trop profond. On ne sait pas ce qu'on va trouver.
C'est un lien aussi. J'aime beaucoup les films d'horreur, hein, dont La Chose, donc ça a eu une grosse influence.
Oui, effectivement, c'est une influence intéressante, c'est-à-dire cette représentation effectivement de la communauté scientifique confrontée à quelque chose dans un environnement clos. Oui, effectivement, je vois tout à fait comment la chose peut avoir.
Beaucoup ce genre d'ambiance dans des bases fermées, voilà.
Tout à fait, y a un effet de huis clos de ce point de vue-là. Alors, on a assez peu finalement parlé de l'ouvreur des chemins, c'est-à-dire que nous avons parlé des deux pôles, si j'ose dire, du point de départ et du point d'arrivée. Et l'ouvreur des chemins, de ce point de vue-là, forcément, a une position un petit peu, disons, difficile à déterminer, puisqu'on est dans un point de basculement. Et en même temps, justement, dans un point de concrétisation de très nombreuses particularités. Et ce qui est au cœur de l'ouvreur des chemins, ce n'est pas la planète, ni Gemma, ni Timka, c'est justement cette arche si fascinante qu'on voit, dont on voit la courbe fascinante dessinée par Manchu en couverture de vestiges. Est-ce que tu peux revenir, sans trop dévoiler, parce que là, nous avons tout de même un élément crucial de l'intrigue du deuxième tome, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet objet et de la façon dont tu l'as conçu, voilà, que nous voyons ici à l'écran?
Alors, c'est pas un vaisseau spatial, en fait. C'est une entité, parce que chez les Timkan, il n'y a pas d'objet, en fait. C'est une culture assez animiste. Tout a un esprit, en fait. Et les Timkan ne construisent pas, ils font pousser. Donc, effectivement, le grand arc, Callahan, l'ouvreur des chemins, c'est son nom, en fait, est une entité. Et il fait beaucoup de choses. Il ouvre les chemins d'espace, mais il fait beaucoup d'autres choses, en fait. C'est ce qu'on découvre aussi à la fin d'Origine, et qu'on découvrira beaucoup plus si un jour j'écris justement Les Mondes de Jade, qui est le spin-off de Quantica. En fait, il a un très très grand pouvoir, mais malheureusement, il a été figé dans une stase au moment où l'entité de Gemma a pris le dessus. Et en fait, il s'est figé, il a fermé ce chemin pour protéger Timka, donc la planète d'origine des bâtisseurs. Donc en fait, dans toute la trilogie, sauf en fait à la fin du tome 2 et dans Origine, c'est malheureusement une entité qui est piégée dans sa stase, en fait, qui peut rien faire et il peut juste protéger. Il peut empêcher justement que deux espaces temps distincts se connectent. Voilà. On parle beaucoup d'intrication, en fait, dans Origine. C'est des termes scientifiques qui sont liés à la physique quantique et que j'ai un petit peu élargi, on va dire, à l'univers macroscopique. Et voilà, donc c'est. Mais l'ouvreur des chemins fait beaucoup de choses. Enfin, il a un très très grand pouvoir, mais le problème c'est qu'il est un petit peu lunatique. Et c'est une entité, c'est un être, en fait, qui a aussi son caractère. Et il n'est pas toujours très très fiable non plus. Voilà.
Un autre type d'intelligence artificielle en quelque sorte.
Oui, voilà, c'est un peu ça.
Dans un contexte qui n'est pas le contexte de l'informatique et justement qui n'est pas.
Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de science comme on l'entend sur Terre, voilà, chez nous. C'est différent en fait, c'est une autre façon d'appréhender la pensée. Voilà, on est plus dans une sorte de forme de pensée de type à l'échelle planétaire, des choses comme ça qu'on découvre.
Quelques mots peut-être sur l'importance pour toi de la physique quantique dans la conception, la représentation des phénomènes que tu évoques. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, reste marginal, c'est-à-dire quelque chose qui est un horizon pour tes romans, ou est-ce que tu considères que c'est un élément dynamique véritablement dans l'écriture?
C'est un élément fondamental. Ouais, c'est vraiment, on va dire, la base de Quantica, c'est ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, dans Quantica, il y a le mot quantique, il y a antique aussi, et puis il y a un autre nom aussi propre. Mais c'est vraiment, je voulais travailler sur les probables. Et la physique quantique, justement, parle des probabilités d'existence, des potentialités d'existence, des chemins, de tous les chemins possibles. Et donc, c'est fondamental au bouquin, effectivement, ouais.
Et de ce point de vue-là, c'est ce qui te permet aussi donc, de revenir à cette idée, cette conception du temps qui est une conception du temps mythique, il est courant
dans l'imaginaire, en physique. Hein.
Voilà, dans l'imaginaire, par la physique. Et c'est-à-dire qu'on François Hartog a parlé de régime d'historicité pour parler. Il propose des réflexions sur la façon de concevoir le temps de façon plus ou moins historique. C'est un rapport au temps comme histoire. Et ce qui est frappant, c'est que le temps des Timkan, donc de ces extraterrestres qui sont à l'origine de tous les événements du roman, des trois romans, ce temps-là, c'est véritablement le temps mythique, c'est-à-dire le temps qui ne connaît pas de limites véritablement, ouais. Dans lequel le passé et l'avenir peuvent se mêler, mais pour des raisons qui sont fondées dans des réalités physiques.
Bah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dans leur temporalité à eux, il n'y a pas de temporalité. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de lien, de séparation entre le rêve et la réalité. Donc déjà, ils vivent dans un temps qui est effectivement différent et qui mêle justement le passé, le présent, le futur. Et c'est justement ce qui a été coupé, en fait. Ce que Yun Keda a détruit, c'est ça, c'est ce lien, en fait, cette multitemporalité, en fait, qui les caractérise. Il n'y a pas que ça qui les caractérise, parce qu'au moment-là, je ne vais pas trop spoiler non plus complètement le tome 3. Il y a beaucoup plus de choses qui sont révélées dans le tome 3, voilà,
auxquelles nous sommes loin d'avoir, d'avoir couvert ce qui se passe dans le tome 3.
Non, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'ils ont un rapport à la réalité qui est vraiment assez différent, en fait, du fait de leur façon de fonctionner d'un point de vue cérébral et sensitif, on va dire.
Et de ce point de vue-là, cet apprentissage, tout le roman, tout le tome 3, justement, est organisé en fonction de cet apprentissage, parce que la connaissance, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, il s'agit d'agir et de régler la situation, mais cela passe par, justement, une éducation, toute une reformation, notamment du personnage de d'Ambre Pasquier, Quantica, elle aussi, qui justement devient l'instrument d'une transformation d'un mode de pensée.
Quantica, c'est la lumière, donc c'est la révélation, c'est vraiment c'est tout ce qu'elle n'est pas, en fait, dans le livre, où elle incarne vraiment quelque chose de sombre, en fait, et son nom, ça veut dire la lumière, en fait. Donc c'est aussi un personnage très paradoxal, comme les Timkan, elle ressemble beaucoup aux Timkan, en fait.
Je reviens sur la question de la symbolique. Je ne sais pas si c'était voulu ou si c'est simplement intuitif, mais de la même manière, ce passage de Ambre qui représente une forme de lumière capturée et figée. On pense évidemment à ces animaux pris dans l'ambre, enfin l'idée de la capture. Donc Ambre est en quelque sorte homothétique de la planète gelée, tandis que Quantica, cette lumière qui se répand, est là homothétique de ce monde. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a, si vous voyez dans les couvertures qui sont là, il y a une traduction par Manchu, une réinterprétation de cette chose-là. On a véritablement un passage progressif de l'ombre vers la lumière. Et en même temps que la situation devient de plus en plus cruciale et difficile, eh bien, nous avons tout de même graduellement cette ouverture, cet espace de révélation.
On passe vraiment du dieu sombre, qui est, voilà, je vais pas trop spoiler, du dieu sombre à Quantica, qui est habité de lumière. Quoi. C'est vraiment, c'est voulu. Hein. C'est vraiment.
Oui, c'est une structure qui guide la lecture au fur et à mesure. Alors, y a-t-il, j'ouvre encore la possibilité de questions. Vous avez. Peut-être qu'on est peut-être un peu trop complet dans notre manière de présenter les choses. On laisse peut-être pas suffisamment d'espace pour le questionnement. Oui.
Je me pose la question, comme vous avez l'air de.
J'entends pas bien.
Comme vous avez l'air autant d'écrire des romans que de faire de la BD, qu'est-ce qui fait que vous choisissez plutôt l'un ou l'autre dans votre travail?
Alors, c'est vrai que j'ai commencé par la BD parce que j'avais l'habitude de la BD. Ça faisait pas mal d'années que je dessinais. Et quand j'ai commencé à réaliser les planches de Quantica, j'avais pas l'espace. En fait, on m'avait proposé 3 albums de 46 planches. Et au final, comme j'avais imaginé le storyboard, j'avais plus que l'action. Et je me suis dit qu'il faut tout que je revoie le storyboard parce qu'il manque la dimension justement mythique, des réflexions, d'évolution des personnages. Il faut refaire le scénario. Et là, je me suis dit non, je ne vais pas refaire le scénario de BD, je vais écrire un bouquin parce qu'à ce moment-là, j'ai pas En fait, surtout, j'avais besoin de liberté, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin de 46 planches avec tant de cases par page, j'avais besoin vraiment d'un espace très très large pour pouvoir explorer comme je voulais en fait l'univers de Quantica, et c'est pour ça que j'ai choisi l'écriture quoi. Mais je dessine toujours, c'est-à-dire que avant de d'écrire des scènes, je dessine la scène, je dessine les personnages, donc le dessin est toujours là. D'ailleurs, j'ai une expo avec un ami aussi qui est aussi écrivain et dessinateur. On a un projet d'expo autour de Quantica. J'en ai déjà fait une au mois de mai avec les personnages, mais là, ça serait beaucoup plus vaste. C'est-à-dire, ça serait l'univers de Quantica qu'on retrouve dans le site internet graphique, quoi. Parce qu'il y a un univers graphique qui existe forcément puisque la bande dessinée a failli voir le jour, quoi. Donc, mais j'aime beaucoup dessiner aussi. Hein, c'est...
Une autre question ? Oui.
Bonjour. Quand vous écrivez vos romans, quelle discipline d'écriture avez-vous ? Enfin, comment est-ce que vous faites pour continuer et pas tomber sur...
Ultra discipliné. Ultra discipliné. C'est-à-dire, je commence le matin et je lâche plus. Je travaille beaucoup. Ouais, j'écris tous les jours, en fait. Et beaucoup d'heures. Mais par contre, je fais pas de plan.
Nous avons le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Sinon, je crois que nous avons bien... Je crois que donc je peux vous remercier Laurence Huner, vous signaler bien sûr que ces livres sont disponibles à la librairie et que dès maintenant tu y vas là.
Un dédicace maintenant et voilà. Alors une première dédicace à 13h et je crois une autre à 15h il me semble. Donc si
voilà.
Jamais,
donc vous pouvez poursuivre ce dialogue avec Laurence Huner en dédicace dès maintenant. Et bien sûr, je vous invite à vous engager dans l'univers de Quantica. Donc, voilà. Tout à fait, vous ne le regretterez pas. Bonne fin de journée. Hein, et voilà. Et à bientôt pour ceux que nous recroiserons.